Ok, donc aujourd'hui, nous allons continuer dans Tite. On est dans l'épître, c'est tout petit, ça va nous prendre quand même plusieurs semaines pour étudier à travers cette épître. C'est la lettre de Paul qu'il a écrit à Tite et pour Tite quand il l'a laissé dans l'île, sur l'île de Crète, afin de organiser les églises et de trouver pour toutes les églises un ou deux ou plusieurs anciens, responsables, surveillants, etc. Donc nous allons lire Tite chapitre 1, verset 9, jusqu'au chapitre 2, verset 1. Mais la prédication se terminera avec chapitre 1, verset 16. Alors, donc, en parlant de ce responsable, il faut qu'il soit attaché, verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Verset 10, il y en a, en effet, surtout parmi les circoncis. Attention, il ne dit pas seulement parmi les circoncis, mais surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire parmi les juifs, beaucoup de gens rebelles deviennent discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, donc une de ces personnes rebelles, parmi ces beaucoup, hein, qui sont rebelles, donc une de ces personnes, le propre prophète a dit, « Crétois, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. » Et puis Paul dit, « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Okay? Donc c'est là, versets 9 à 16, où nous aurons notre enseignement aujourd'hui. Donc, je voudrais simplement vous rappeler que dans la première partie de ce premier chapitre, Paul a détaillé le genre de personnes à choisir comme responsables d'une communauté chrétienne, une communauté de croyants en Jésus-Christ. Dans la seconde moitié de ce chapitre, Paul donne des raisons pour les qualifications des anciens. Il y a des raisons, ce n'est pas à hasard qu'il a dit ces choses. On voit donc, je vais sauter un petit peu, mais c'est le verset 7, on lit, « Car il faut que l'évêque, » donc l'évêque c'est le responsable, c'est le surveillant, c'est le responsable, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'il soit irréprochable. Ce n'est pas pour son propre bénéfice qu'il doit être responsable. Il faut qu'il soit irréprochable, avoir une bonne réputation parce qu'il est économe de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui travaille dans l'église, l'église qui appartient non pas à lui, mais à Dieu. Donc il est gérant dans la maison de Dieu. Au verset 9, il dit qu'il, non pas seulement qu'il doit être irréprochable, mais au verset 9, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle était enseigner. Pourquoi? Afin d'être capable. La parole de Dieu nous rend capables. Et pour donc le responsable, ça lui rend capable d'enseigner. Donc le mot c'est capable d'exhorter. On va voir ce mot, on va passer quelques minutes sur la signification de ce mot à la fin du message. Mais aussi de réfuter. Okay? Parce qu'il y a des contradicteurs. Les contradicteurs sont les gens qui sont hostiles à la vérité. Ils sont ennemis de la foi. Et donc, il va falloir que les responsables soient capables de répondre, de prouver quelle est la vérité quand ils sont en face de quelqu'un qui prétend que tel ou tel mensonge soit la vérité. Donc, un berger doit non seulement nourrir les brebis, mais il doit aussi les protéger. Okay? Donc, c'est surtout c'est ce domaine-là, la question de protection, qu'on va voir les choses aujourd'hui. Premièrement, donc, c'est les problèmes. Et puis, on va terminer avec les solutions. Le premier problème, c'est que les nouveaux convertis du paganisme, donc je ne parle pas de quelqu'un qui grandit dans l'église, qui a écouté les prédications, et les parents ont prié avec l'enfant, fait tout le lit, et donc, voilà, cette personne se convertit à Jésus. Je ne parle pas de cette personne-là. Je parle des nouveaux convertis du monde. Peut-être de paganisme, peut-être de notre religion, qui sait. Mais le problème avec ces nouveaux convertis, c'est qu'ils sont peu instruits dans le christianisme. Donc ici, qui se trouve avec une population de chrétiens, toutes nouveau-nées. Peut-être depuis une semaine, peut-être un mois, Paul a donné des doctrines essentielles et il est parti. Toi, tu vas régler le reste. Hein? Donc, il y a plein de problèmes. Et le point ici, c'est que, étant ignorants du christianisme, ils n'ont pas de culture chrétienne, eh bien, ils sont vulnérables. Ils sont influençables. Et voilà que les loups et les coyotes préfèrent s'attaquer aux animaux jeunes et affaiblis. Parce que, justement, ils sont moins forts. Et ils sont moins rapides. Il y a toujours des prédateurs dans le monde. Et même cachés dans la religion. Faut pas dire, ah, voilà, c'est la religion, donc tout le monde est bien. Tout le monde est bon. Non, c'est pas le cas. Les gens avec, il y a des gens qui ont leur propre agenda et qui sont maléfiques. Ce sont, comme j'ai déjà dit, les contradicteurs. Ce sont les gens qui sont, je le répète, hostiles à l'Évangile. Ils sont hostiles à l'idée qu'il y a un Dieu créateur. Donc, le point, c'est que vous devez vous méfier. Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas le point. C'est simplement que si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est pour cela que le pasteur, que le responsable, le surveillant, il doit déjà avoir une bonne réputation, non pas seulement parmi les chrétiens, mais en dehors aussi. Il doit avoir une bonne réputation. Autrement, il pourrait être un de ces loups dont il faut se méfier. Voilà. Donc voilà pourquoi déjà il faut qu'on choisisse des hommes qui sont bien. Ok? Le second problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent détourner les convertis dans d'autres directions. Bon, ça peut être n'importe quelle direction. S'il y a 360 degrés, hein, eh ben, Jésus c'est l'unique, ok? Et tous les autres sont les mauvais. Hein? Détourner, c'est détourner. Il veut détourner les jeunes convertis ou même les convertis depuis longtemps qui ont oublié de lire la Bible, par exemple, pour un ou deux ans, et puis les choses deviennent un peu floues. Ce peut être les gens religieux, comme ça peut être les gens non religieux. Ce n'est pas obligé qu'ils soient les gens religieux qui essaient de détourner les chrétiens. Donc, je vais parler des gens religieux en premier, et je vais parler des gens du monde par la suite. Il y a des gens religieux, donc des personnes sectaires, qui sont habiles à compter. mais le message est faux. Le message, quand on lit le texte, il dit que le message est séduisant. C'est séduisant, donc c'est intéressant. Mais le message ne donne pas la vie. Il ne faut pas penser que les autres n'ont pas de message. Ils ont des messages. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est en Jésus-Christ. Et en faisant la préparation, ça m'a rappelé d'une publicité pour une série de films sur l'évolution. Et donc, il disait dans cette publicité pour enseigner la mythologie. Donc, le mot mythologie n'était pas là. C'était pour enseigner l'évolution, mais j'ajoute le mot mythologie de l'évolution, des origines, donc sans Dieu. Hein? Donc, la citation, il faut des merveilleux conteurs capables de capter l'attention du plus rêveur des élèves. Si on ne rend pas intéressant l'évolution, eh bien, personne ne va la suivre. Donc, il faut savoir compter, raconter, mythologiser, rendre les choses des fables et des mythologies pour que les gens s'attachent. Et surtout les gens les plus intelligents, parce qu'eux, ils vont pouvoir promouvoir par la suite. Bon, ça, c'est qu'il a fait une citation avec le plus rêveur des élèves. Ici, dans le texte de Tite, les conteurs sont, évidemment, parce qu'il le dit, surtout les Juifs, avec leurs histoires apocryphes et leurs traditions. Alors Jésus et les premiers chrétiens devaient toujours combattre les pratiques basées sur les traditions religieuses et sans fondement biblique. À travers les évangiles, à travers les épîtres, c'est constamment en train de combattre ces choses-là. Et c'était la même chose pour les réformateurs qui devaient aussi combattre les histoires apocryphes et les traditions religieuses sans fondement biblique des catholiques. C'était intéressant quand on habitait à Limoges, on a visité l'ancienne église, on va dire l'église, qui est maintenant le. Je ne connais pas le vocabulaire, le siège pour l'université. Donc, il montrait les vitraux et tout ça, et expliquait que pour que les gens passent par une direction et non pas par une autre direction sur le pèlerinage pour aller à Saint-Jacques-de-la-Compostelle, que les prêtres inventaient des histoires, et donc les histoires étaient dans les vitraux là, pour que ça soit intéressant pour que les gens dépensent leur argent dans leur église et non pas dans l'autre église. Ok, ce sont des contes, des histoires apocryphes. Ils n'ont jamais existé, mais on les a inventés. Aujourd'hui, alors là je parlais de 500 ans, ok, mais aujourd'hui, les contes religieux sont sur tous les côtés. Ils sont à droite, ils sont à gauche, même chez les gens qui se disent baptistes. Alors, je me souviens, quand j'étais jeune, d'un pasteur dans une très grande église, on dira aujourd'hui méga-église, mais les méga-églises n'existaient pas encore. Et il avait une petite demi-phrase comme point de départ pour ses messages, et puis il comptait à travers les 30 minutes de message. Et c'était intéressant. Il savait raconter une histoire, mais ça n'avait rien à voir avec la Bible, c'était tout ici. Ok, une église baptiste. Hein? Donc, faut pas dire que voilà, les baptistes, on est innocents. Ah non. Hein? Les conteurs sont des conteurs. Même si un message est goûteux et fait rêver, si le message n'est pas vrai, le message n'est pas bon. Point final. Seulement, la vérité libère une personne de ses liens spirituels. Jésus a dit dans Jean 8, 32 que la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Un enseignement spirituel doit toujours sortir de la parole de Dieu. Puis, en plus de ces conteurs religieux, il y a des gens qui utilisent les préjugés culturels, la philosophie, la sagesse humaine, les traditions et les coutumes pour détourner les convertis de la vérité. Et il faut dire que c'est vrai, le passé, donc le passé de chacun de nous, possède une forte prise sur nous. Nous étions cette personne-là depuis X années jusqu'à ce que je suis converti à Jésus. Et si je continue, je reste pareil. Nous sommes l'accumulation de notre passé. Et ce passé peut facilement déterminer notre avenir. Sauf si nous nous détournons consciencieusement du passé et le remplacer avec la volonté de Dieu exprimée dans la parole de Dieu. C'est vrai aussi que des fois, il faut carrément couper tous les ponts avec le passé afin de devenir un chrétien heureux. Des fois, il y a trop de liens vers d'autres choses. Et si on ne coupe pas les ponts, on ne peut pas être heureux. Donc, des fois, il faut carrément couper tous ces ponts-là. Alors, dans le verset 10, il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles devinrent discoureurs et des séducteurs. Donc, on reprend les mots. Il y a, il dit, en effet, beaucoup. Oh, mais non, il n'y a pas beaucoup. Il y a peut-être quelques-uns. Pas beaucoup. Beaucoup. Il y a toujours eu beaucoup. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup. Hein? Beaucoup de gens rebelles. Des vains discoureurs et des séducteurs. Ce sont des gens qui sont insoumis. Ils sont en rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Alors, ces nouveaux responsables que Tite doit proposer, vérifier leur réputation et leur caractère, et il va proposer à l'Église, et l'Église va choisir tel homme, eh bien, ces anciens vont devoir confronter ces gens mal intentionnés pour refuter leurs fausses prétentions, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset 9. Et donc, ils vont leur couper la parole. Ils vont leur museler ou fermer la bouche, il dit dans le verset 11. Et donc, cette expression, on va le relire encore dans un second, cette expression, c'est pas littéral, il faut pas leur... il faut pas leur faire du mal. Mais l'idée, c'est qu'il faut mettre fin à leur faux enseignement. Donc, les faire taire. Donc, il ne faut pas les faire prêcher dans votre pupitre. Et d'ailleurs, il ne faut jamais, hein, jamais donner le pupitre à une personne qui n'est pas soumise à la parole de Dieu. Si vous connaissez que telle ou telle personne est insoumise, vous ne devez pas dire, tiens, venez prêcher pour nous. Si, par mégarde, ça vous arrive un jour, il faut, d'après le texte, corriger ces erreurs par la suite. Eh bien, ne jamais plus inviter cette personne prêcher chez vous. Alors, je vais vous dire une fois, ça fait des années maintenant, mais j'ai été obligé de reprendre un prédicateur. Parce que, et je lui dis comme ça, vous n'allez pas apprendre à mes enfants la rébellion. Hein, parce qu'il était là, sur le pupitre, en train de prêcher la rébellion. Et j'avais des jeunes. Donc, j'ai dit, non, vous n'allez pas faire ça. Hein? Donc, il ne faut pas laisser les gens rebelles continuer à prêcher la rébellion. Donc, je répète aussi pour ces gens qui peuvent être religieux ou laïcs, même si les enseignements que ces gens donnent, même si les enseignements sont captivants, sont intéressants et attrayants, ils sont séduisants. Ça fait appel à notre corps, notre humanité, notre pensée peut-être, mais le contenu, d'après le texte biblique, est vide et vain. Le contenu est creux. Il n'y a rien là. au verset 11, il dit auquel, donc concernant ces 20 discoureurs, il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc les familles entières peuvent être influencées, détraquées, bouleversées. Nombreux sont ces mouvements attrayants, peut-être pas à vous, mais à d'autres personnes, hein, mais qui sont en opposition à la vérité divine. Donc, je dis vérité divine en parlant de la parole de Dieu. Okay? Il y a le mouvement du christianisme libéral. Bon, ça fait presque 200 ans que le mouvement libéral chrétien, ça promeut toute la doctrine de l'évolution et plein d'autres choses. Il y a le mouvement zen, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a le mouvement yoga. Il y a le mouvement végétarien et vegan. Il y a le mouvement pentecôtiste et charismatique. Il y a les mouvements, je vais mettre en pluriel, les mouvements légalistes. Il y a le mouvement nouvel âge, donc Pierre va parler cet été, je pense, sur ce thème, deux, trois fois. Okay. Il y a le mouvement santé et richesse. Et en plus, il y a plein... Nombreux sont les sept, hein, etc., etc. Eh bien, ces choses-là peuvent influencer et détourner des familles entières. Parce qu'il prend une personne, et puis par la suite, une personne influence tout le reste de la famille. Donc le verset dit, 11, je le répète, auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux, pour un gain honteux, pour l'argent, ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc ce verset dit que les discoureurs cherchent à remplir leur poche avec l'argent des chrétiens. Qui peut être plus généreux qu'un chrétien? Bon, il y a certainement des bénévoles dans le monde, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres bénévoles, mais normalement, ça fait partie de notre caractère chrétien, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, qu'on soit généreux. Alors si les chrétiens sont là avec les poches prêts à donner, eh bien, quelqu'un qui vient, ah, je peux enlever pas mal d'argent dans cet endroit-là, vous voyez? C'est comme ça qu'il approche les chrétiens. Alors, c'est sûr que le texte focalise sur les Juifs de l'époque. D'accord? Donc, je ne veux pas détourner la parole. Mais de nos jours, quand même, il ne manque pas de cupides parmi les prédicateurs, parmi les téléprophètes, les sectes et même les sites sur Internet. Il y a plein de gens qui veulent votre argent. Alors, faites attention à vous. La Bible dit que vous allez devenir ce que vous écoutez. Ce n'est pas comme le communiste qui dit que vous allez devenir ce que vous mangez. Attention! La Bible dit, et même Paul qui l'a dit, en Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. On entend le communisme, on devient communiste. Si on remplit l'esprit avec le communisme, on va devenir communiste. Si c'est l'anarchie, on va devenir anarchiste. Si c'est le bouddhisme, on va devenir bouddhiste, etc. Et bien, si c'est le christianisme, on va devenir chrétien. Hein? Vous voyez? On a demandé à Martin Luther, mais pourquoi tu veux que tous les gens ont la Bible chez eux? Eh bien, comme ça, on aura plus de chrétiens. C'était la réponse. Si vous êtes écouté n'importe quoi, je veux dire, sur Internet, vous allez abîmer votre foi. C'est ça le problème. Personne ne sait ce que vous écoutez. C'est vous qui devez gérer. C'est vous qui devez gérer ce que vous écoutez sur Internet pour ne pas abîmer votre foi. Alors cet avertissement est tellement important aujourd'hui, okay, dans notre époque, quand l'information est infinie. Hein, vous pouvez même écouter dans les langues que vous ne connaissez pas. Il y a tout sur Internet. Alors récemment, on m'a demandé d'aller sur un site et écouter un prédicateur. Ah, oh, mais c'est notre prédicateur favori, on m'a dit. D'accord? Donc, je suis allé écouter son message. Et d'après lui, il prêchait le christianisme simple d'origine. Hein? N'importe qui peut dire « je suis chrétien biblique hein? ». Ça veut dire, je veux dire, après, il faut savoir ce qu'il veut dire par dire « je suis chrétien biblique ». Ben voilà, il disait que c'était le christianisme simple d'origine. Pourtant, la richesse, la frappe, la frappe à l'œil, la technologie surabondait dans l'image. Il y avait même derrière lui, c'était une grande estrade, et puis il y avait un écran aussi grand que dans les cinémas, ou plus grand même, avec des images qui tournaient là, on était roi, c'était même presque hypnotique. D'accord? Et c'était le simple christianisme d'origine. Sa prédication était poivrée de quelques demi-versets, de temps en temps, à travers son discours. Alors, je suis allé voir sur Internet par la suite, parce que j'ai dit, bon, ça a dû coûter longtemps pour toutes ces choses comme ça. Alors, donc, on a trouvé que son portefeuille privé atteint plus de 11 millions de dollars. Ben, il n'est pas comme Pierre ou Jean. Ah ben, on n'a rien, nous, mais on va vous guérir. Vous voyez? Le christianisme simple d'origine, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela soit vraiment le christianisme d'origine, mais plutôt un message de santé et de richesse. Ce n'est pas la vérité. Une véritable foi saine ne peut venir que de la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Regardez dans les versets 12 et 13. L'un d'entre eux, donc d'après les notes bas de page, il dit que c'est un certain Épiménide du 6e siècle avant Jésus-Christ qui a en principe donné cette citation. Okay? L'un d'entre eux, le propre prophète, a dit. Et avant de lire ce qu'il a dit, je vais dire, puisque Paul va critiquer les Crétois avec cela, il choisit un texte que eux ils connaissent pour ne pas les offenser. Ah, ben voilà ce que vous dites de vous-même, et c'est pas bien. Au lieu de dire, ah ben voilà ce que vous êtes, et c'est pas bien. Vous voyez, comme il était quand même sensible, Paul. Hein? Donc, il a fait une citation que probablement ils connaissaient tous. Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Donc, cet écrivain a écrit concernant le caractère crétois, malhonnête, méchant, paresseux. En court, il aimait la vie facile. Paul dit que cette critique est toujours, 6 siècles plus tard, toujours valable à propos du caractère des Crétois. Donc, les convertis, il ne parle pas aux non-croyants, il ne parle pas aux gens du monde, il parle aux croyants, il dit que vous, les croyants, ne devez plus marcher dans cette voie-là. Pour vous, il faut changer, parce que vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Donc, les responsables auront évidemment du travail hein, pour aider les frères et sœurs de changer ces vieilles habitudes qui sont enracinées depuis combien de générations enracinées depuis plusieurs siècles. Pourtant, la parole de Dieu est efficace. Elle est capable de nous transformer. Paul va parler, donc, dans les prochains deux chapitres, et on va voir ça par la suite, n'est-ce pas, de la vie pratique chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de problèmes dans la culture crétoise qu'ils doivent changer toutes ces choses. Donc, il va détailler ça à travers les deux chapitres qui vont suivre. Verset 14. Donc, je recommence avec 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Donc on voit bien dans ce verset que les nouveaux convertis doivent réorienter leur vie, réorienter leur pensée. Ceci est une repentance continue dont parle Paul dans Romains chapitre 12 et verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il ne prêche pas l'évangile là. Ce n'est pas la repentance pour avoir la foi en Jésus. C'est la repentance pour vivre la vie chrétienne. Ces gens-là sont tous déjà convertis à Jésus. Mais ils sont des crétois, ils sont malhonnêtes, des paresseux et tout ça. Et ce n'est pas mon témoignage. Ce n'est pas la vie chrétienne. Donc, voilà, vous devez avoir ce changement dans vos pensées. Et cela vient de la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent plus écouter et suivre les fables, les mythes, les traditions et les commandements humains. Certes, une telle réorientation va se voir autour. Hein? Les copains, les collègues, vous allez peut-être même perdre des amis. Ou peut-être, en voyant votre vie, vos amis vont suivre sur la même route pour trouver Jésus. Et si vous ne vous déclarez pas, il ne peut ni l'un ni l'autre. Donc il faut montrer qui vous êtes maintenant, que vous êtes croyant en Jésus-Christ. Voilà le chemin de la foi. Le juste vivra par la foi. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Et désormais, nous vivons, nous continuons à vivre par cette foi. Comment de tels changements sont-ils possibles? La parole de Dieu. Ça revient toujours à la parole de Dieu. Au verset 9, nous lisons que c'est la parole de Dieu qui rend capable pour réfuter, aussi pour convaincre, pour corriger ces gens hostiles à Dieu. Elle est la vérité. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4 et verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 2 Timothée 3,16 dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et Jésus a prié pour nous dans Jean chapitre 17 et verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Mes amis, c'est la parole de Dieu qui est la réponse. Elle est digne de foi. Je ne suis pas digne de foi, vous n'êtes pas digne de foi. Mais la parole de Dieu ne se trompe pas. Elle est digne de foi. Nos responsables, comme les nouveaux convertis, ont tous besoin de la parole de Dieu. Tous les enseignements que l'Église donne doivent venir découler de la Bible. Nous devons tous nous attacher à la parole de la vérité. Nous devons être attentifs à la parole qui, elle seule, peut nous diriger vers une pratique de foi saine et nous garder de nous détourner de la vérité. Donc je vais au verset 6 à 16, mais je vais lire le 15 avant. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc le verset 16 dit que ces gens proclament connaître Dieu, même quand ils ne le connaissent pas. Donc voilà, vous êtes chrétien, vous voulez aller dans une conférence, pourquoi y aller si la personne dit « je ne suis pas chrétien » ? Ils vont dire « je suis chrétien, je suis très bon chrétien », etc. On va faire la publicité, vous allez dans cette conférence-là, ok? Ils proclament connaître Dieu quand ils ne le connaissent pas. Ils font profession de connaître Dieu. Ils disent « je connais Dieu », mais en réalité, ils sont seulement religieux et n'ont pas né de nouveau. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ça. On voit dans le monde les gens religieux, dans tous les domaines, catholiques, protestants, baptistes, etc., etc., qui ont des postes dans l'église, mais qui ne croient à rien. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une église à San Luis Obispo, en Californie, et le pasteur dit quelque chose dans le message qui me semblait un peu bizarre. Je suis allé le voir par la suite. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il dit, ah, mais vous savez, les Juifs ont écrit n'importe quoi dans leur histoire. Ah, j'ai dit, bon, au revoir. C'était fini. Jésus a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Paul dit qu'il renie Dieu par leurs œuvres. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. Leurs œuvres sont mauvaises parce que leurs intérieurs sont souillés. Malgré ce que eux ils disent eux-mêmes, la Bible les déclare être des incrédules. Hein, c'est un des derniers mots. Non, je ne le vois plus. C'est pas grave. Donc, vous vous trompez si vous prenez comme argent comptant les prétentions de tous ces guérisseurs et ces faux prophètes qui parcourent nos pays. Ils sont sans nombre, à droite et à gauche. Ils sont sur Internet, dans les DVD, sur la télévision. Paul dit que ces gens sont abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Bon, je pourrais dire les bouddhistes, les hindous, les ceci, les cela, mais pourquoi parler de toutes les autres religions quand il y a plein de saletés chez nous? Hein? C'est pour ça que je dis ça, ok? C'est pas que je suis méchant, peut-être, mais le problème c'est que autour de nous, où que vous allez en France, vous trouvez parmi ces gens-là, malheureusement. Frères et sœurs, Paul dit ici que vous ne devez pas vous attacher à des fables et des commandements. Au contraire, détachez-vous de tout cela et accrochez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donnera une optique de vie pure. Nous avons tous à lire la parole de Dieu pour devenir des meilleurs chrétiens. Au verset 9, en même temps que les surveillants doivent protéger l'Église, ils doivent aussi faire le travail d'exhortation. C'est le mot parakaleo. Ce mot est, en fait, c'est très riche en signification. Okay? Le parakaleto, donc on va revenir pour faire la comparaison avec un autre mot que vous connaissez déjà. Le verbe peut se traduire prier, supplier, exhorter, encourager, consoler, réconforter. Donc quand vous voyez le pasteur dans le pupitre et il prêche. Donc on dit, il prêche. Donc en fait, c'est ce mot-là, parakaleo. Il doit exhorter, encourager, consoler. C'est ça le mot à l'intérieur du bâtiment. Et à l'extérieur, c'est un autre mot qui veut dire faire le héros. Donc prêcher, déclarer les choses, donner le message. Le nom, donc c'est le même mot, mais là je donne le verbe, et le nom peut se trouver en masculin ou en féminin. Donc le nom au féminin signifie encouragement, exhortation, consolation, réconfort, invitation, prière. Et au masculin, le même mot dans le nom masculin signifie défenseur, intercesseur, consolateur. Donc, le pasteur, quand il fait, donc l'évêque, le responsable, quand il fait son travail d'exhortation, parakaleo, il travaille avec le parakletos. Paraclète. Vous connaissez le mot, non? C'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est le même mot. Ceci est un travail, donc là, ce que fait le pasteur dans son ministère, est un travail d'encouragement, d'exhortation, de réconfort, de consolation. Parce que le pasteur s'attache à la parole. C'est pas parce qu'il a un grand cœur. C'est parce que la parole de Dieu est comme ça. Parce que c'est l'instrument du Saint-Esprit pour œuvrer dans nos cœurs, pour nous transformer d'être les personnes que Dieu voudrait que nous soyons. Donc, on entre dans l'œuvre du Saint-Esprit quand on ouvre la parole de Dieu pour que les gens puissent aller carrément à la source et boire. Donc, j'espère que ça a été un peu un éclaircissement de ce que Dieu veut de cet homme ou de ces hommes qui vont être responsables dans les églises. Et encore une grande partie de pourquoi, c'est parce qu'ils doivent être le modèle. Donc, à partir du chapitre 2, Paul va prêcher, Paul va ouvrir sur tous les détails de la vie. Alors, si le pasteur a mauvaise réputation, il ne peut pas correspondre à ce que Dieu veut des autres chrétiens. Il doit être déjà dans la place des autres chrétiens qui doivent apprendre à respecter l'autorité et tout ça. Il doit être déjà là, un homme qui respecte l'autorité, par exemple. Donc, à travers les prochaines quelques semaines, nous allons voir, donc dans le chapitre 2 et 3, ce genre le genre de personnes que Dieu veut que nous tous, nous soyons. Okay? Donc, que le Seigneur vous bénisse.